Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
60 minutes business, BFM Business avec vous.
La deuxième partie de l'émission BFM avec vous, avec Lorraine Goumeau comme tous les jours. Bonjour Lorraine.
Bonjour Sandra, bonjour à tous.
On parle de télétravail aujourd'hui.
Et oui, la question c'est, faut-il continuer le télétravail? Ça vous a fait réagir, on a fait un petit sondage sur LinkedIn. On vous a demandé quel était le nombre idéal de jours de télétravail. Pour ceux qui le peuvent, bien sûr, par semaine. Un jour, 16%. Deux jours, 57%. Ah oui. Cinq jours, 27%. Alors bon, c'est moi qui avais fait la sélection du nombre de jours. Mais vous voyez, deux jours, ça l'emporte haut la main. Bonjour Christian Bogos.
Bonjour Lorraine, bonjour Sandra.
Vous êtes notre expert du jour. Alors, croyez-vous que dans les entreprises, cette année-là, 2022-2023, on va continuer à télétravailler ou travailler de manière hybride?
Moi, j'ai l'impression que le télétravail devient irréversible. Alors, évidemment, on va toujours nuancer selon les secteurs d'activité et les professions qui le peuvent, mais enfin, toutes les entreprises que nous consultons, tous les dirigeants que nous voyons, ont inscrit le télétravail dans leur façon de fonctionner, dans leur organisation. Après, c'est des négociations par entreprise. Et puis, il faut rappeler quand même que pour certaines populations de jeunes que l'on veut recruter, le télétravail devient un élément tout à fait prépondérant.
Lorraine. Alors, on a pas mal de témoignages d'auditeurs et d'auditrices. On va commencer par celui de Jocelyn, qui répond à la question « Faut-il continuer une organisation de la semaine avec des jours de télétravail ?» Il nous dit « Je ne suis pas certain que cette question se pose encore, sauf si, derrière, l'idée est de se demander si on doit faire du full télétravail ou revenir à du full présentiel. » Alors, traduisez-nous ça en français pour les puristes qui nous écoutent.
Full télétravail, 5 jours par semaine, c'est-à-dire on ne va plus du tout dans l'entreprise, full présentiel, on va tout le temps dans l'entreprise, il n'y a plus du tout de télétravail. Évidemment, la vérité entre les deux, elle n'est pas ailleurs, elle est vraiment entre les deux, la vérité. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a des vraies conversations, il y a des vraies négociations sur comment j'organise mon équipe avec une dose de télétravail. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faudra rester.
À cette même question, Reza nous répond donc cette question. Faut-il continuer cette organisation de la semaine avec des jours de télétravail? Oui, deux ou trois pour garder le lien avec les collègues et assurer les réunions importantes en présentiel. Effectivement, c'est de cela dont on parle. C'est
exactement
le lien en entreprise.
Et Reza met le point juste. C'est aujourd'hui le sujet du télétravail, enfin, pour faire simple, il y a deux façons de le voir. Il y a une façon très égoïste et individualiste et il y a une façon d'organisation de l'entreprise. Soit on dit, chacun prend les jours qu'il veut, quand il veut, sans tenir compte de l'équipe. Et ça, je pense que c'est un modèle qui arrive à sa fin. Et aujourd'hui, on est en train de voir des conversations, des discussions dans les équipes en mettant du télétravail, mais de façon collective. C'est-à-dire, quelles sont les missions qui peuvent être télétravaillées et celles qui ne peuvent pas l'être? Et quels sont dans l'équipe ceux qui vont en télétravail pendant que ceux qui sont sur site, qui restent? C'est-à-dire qu'on fait un équilibre entre ceux qui sont loin et ceux qui sont proches pour que l'entreprise continue à fonctionner. Et en fait, on peut conclure deux choses. La première, c'est que les managers doivent organiser les missions de chacun avec sa télétravail. Et là, tu es sur site. Et deux, ça devient un acte managérial. Donc, moi, ce que je vois dans les entreprises pour 2023, c'est que le télétravail devient un sujet collectif. Alors qu'on a créé le télétravail comme un sujet individuel.
Est-ce que, Christian, vous observez l'appropriation de concepts qui peut-être avant étaient réservés soit au monde de l'industrie, soit au monde de la start-up, une dichotomie entre le temps de travail où on produit et le temps de travail où on est opérationnel. Autrement dit, le temps de travail où on a besoin d'être tout seul pour avancer sur ses dossiers et un temps de travail dédié aux réunions, dédié à l'échange, au brainstorm. Est-ce que ça se vulgarise dans les entreprises? Et si oui, est-ce que c'est pas une bonne nouvelle pour l'efficacité?
Alors oui, ça se vulgarise, oui, c'est une bonne nouvelle et ça a un impact sur la géographie des lieux. C'est une autre façon de dire qu'on va regarder dans les missions de chacun ce qui peut se faire en télétravail, c'est-à-dire avoir une réflexion presque solitaire, et ce qui doit se faire en groupe. Donc ça veut dire que l'esprit collectif va perdurer, mais d'une autre façon. Et la deuxième chose, cet impact que ça va avoir, c'est sur la géographie des sièges sociaux.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y aura de moins en moins, évidemment, de bureaux fermés, il y aura de moins en moins peut-être de bureaux tout court, mais il y aura de plus en plus d'endroits où on met tout en commun, où on recrée. Alors, un esprit d'équipe, c'est pas de la convivialité, encore une fois. La convivialité, c'est pas le sujet de l'entreprise. L'esprit d'équipe, c'est comment je travaille, on travaille ensemble pour atteindre un objectif. On est bien là.
Dans nos témoignages, plusieurs mettent en avant la corrélation entre télétravail et le secteur dans lequel on travaille, évidemment. Didier répond à cette question sur l'organisation de la semaine en disant, à part la comptabilité, difficile d'emmener bétonnière, poste à souder, camion grue et autres outils de construction à la maison. Du coup, pas question que ça ne profite qu'à quelques-uns et détruise l'esprit de groupe. Voilà, si dans son esprit, s'il y en a qui n'y ont pas droit, les autres non plus. C'est vrai que ça peut soulever ce genre de questions.
Et c'est un vrai sujet d'équité entre les salariés. Et c'est peut-être là où il faut faire attention à la fracture à l'intérieur de l'entreprise. Ceux qui auront la possibilité, voire la chance, de faire des choses chez eux et un peu sur site, et ceux qui ne pourront le faire jamais. Ça ne remet pas en question le sujet du télétravail. Ça pose la question de rétablir une équité peut-être sous une autre forme.
Avec d'autres avantages.
Exactement, entre les collaborateurs. Et là, on revient encore une fois, ça devient un acte managérial. Et donc, c'est pour ça que, souvenez-vous, quand on a beaucoup parlé du télétravail, on a dit que ça va détruire l'esprit d'équipe et l'esprit collectif, parce que chacun va travailler à distance et on ne va plus jamais se voir. Aujourd'hui, c'est le sujet, l'esprit collectif. C'est comment faire pour garder du collectif avec une nouvelle forme d'organisation de l'équipe, en fait, avec ceux qui peuvent, ceux qui ne peuvent pas, les tâches qui peuvent, les tâches qui ne peuvent pas, et l'endroit où on se réunit pour continuer à créer de la valeur.
C'est intéressant, voilà, le télétravail ne diminue pas nécessairement l'esprit collectif.
En tout cas, si on le laisse faire, il va le détruire.
On a un autre témoignage d'un écrivain, vous voyez, qui nous a répondu sur LinkedIn, il s'appelle David, et il nous reproche de toujours vouloir compter, quantifier et classer. Alors il nous précise, certains emplois nécessitent plus de temps et de s'adapter à des fuseaux horaires par exemple, d'autres sont intenses et 35 heures c'est déjà beaucoup, sans oublier ceux qui souhaitent travailler plus.
Ben, il pose beaucoup de questions dont les réponses sont souvent dans 1, organisation du travail, 2, les conventions collectives, 3, la mission, 3, les statuts, cadre, pas cadre. Donc, tout est un peu dans ces questions. Mais en fait, il est vrai que sous-jacent, moi, ce que je ressens, c'est la liberté ou du moins la propre organisation de soi-même de faire la tâche ou la mission que l'on nous confie et selon le temps dont on a besoin. Après, il faut faire attention aux dérives. Le problème du télétravail à domicile, c'est qu'on ne sait pas quand le travail s'arrête et quand la vie privée commence. Quand on est tout le temps chez soi. Donc on fera attention à ça. Dernière chose qu'il faut quand même rajouter, c'est le télétravail, l'organisation hybride, on va dire, nécessite un socle de valeurs, de confiance, de délégation de responsabilités, de prise d'initiative, sans que le manager en soit absent. Mais c'est aussi pas que du contrôle, c'est aussi un peu de confiance.
Oui, justement. Ça remet le manager et la relation finalement à son collaborateur, totalement au centre de la vie de l'entreprise.
Oui.
C'est cette question de télétravail.
Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que avant la crise Covid, on avait presque programmé la disparition des managers intermédiaires en disant qu'ils étaient pris dans un étau de... Bon.
Mais aujourd'hui, c'est ceux qui ont eu le plus de burn-out.
Oui, exactement. Exactement. Et aujourd'hui, ça devient une pièce maîtresse. À condition, évidemment, qu'il change son style, mais ça, c'est évident, et ils sont tous d'accord, mais ça devient une pièce maîtresse.
On va peut-être conclure en vous partageant cette réaction de Natacha, qu'on connaît bien, les relations presse dans la tech, et elle nous écrit « Le télétravail dans le tertiaire me semble être un acquis qu'aucun salarié ne serait prêt à abandonner. » Alors, on parle d'acquis sociaux, et c'est vrai qu'on l'a vu dans les sujets de recrutement, c'est un must-have des candidats, notamment de génération Z et Y. Un acquis social, vraiment ?
Oui, en tout cas, une constituante majeure de la marque employeur, c'est-à-dire l'attractivité de l'entreprise pour certaines catégories de salariés, souvent les cadres d'ailleurs, et dans le tertiaire, c'est vrai. L'attractivité tient au fait de pouvoir s'organiser un peu comme on le veut. Mais encore une fois, vous voyez, à partir du moment où on pose cette idée, ça veut dire que derrière, il faut savoir de quoi on parle. Quelles sont les missions, quelles sont les tâches, quel est le site, combien de jours, etc. Donc c'est une vraie révolution. de l'organisation du travail qui est en train de se faire. Et ce serait un leurre de penser qu'il ne faut faire des sièges sociaux qu'en salle de réunion. C'est la face émergée de l'iceberg. Le vrai sujet, c'est la redéfinition de la façon de travailler ensemble.
Mais d'ailleurs, je partage avec nos auditeurs une petite confidence organisationnelle. À BFM Business, on est en train de réaménager le plateau de la rédaction.
Oui.
Et on a maintenant, à chaque îlot de sièges, on a 6 sièges, et maintenant on a des bureaux de passage obligatoires, disons un îlot sur deux, bureaux de passage sur lesquels il n'y a même pas d'écran d'ordinateur.
Voilà.
Donc peut-être sous-entendu que les gens vont tous venir avec leur ordinateur
bien
portable,
sûr.
Mais pas forcément. C'est un bureau vide qui doit pouvoir accueillir tout type de présence.
Vous montrez la voie.
C'est ça. Merci Christian Bogos.
Merci beaucoup.
Merci d'être venu aujourd'hui.